Alors, ça vient tout juste de sortir, là, l'accueil Bonneau qui supprime 11 postes. C'est Philippe Tessera-Lessard qui nous apprend ça. Donc, l'annonce a été faite et là, apparemment, les employés sont pas contents. La direction de l'accueil Bonneau dit qu'elle veut réaligner ses ressources. Donc, voilà, je vous donne l'information. Je suis pas en mesure de vous en dire davantage. Mais au moment où toute la question de l'itinérance et du couvre-feu font l'actualité, c'est sûr que cette suppression de postes à l'accueil Bonneau va susciter beaucoup, beaucoup de commentaires et beaucoup de réactions. Donc, à suivre pour la suite des choses. Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Alors aujourd'hui, tu nous proposes le sujet des médiums. Qui sont-ils les médiums? Et d'ailleurs, c'est quoi un médium? Mettons que tu devrais nous définir, nous dire c'est quoi un médium?
Ça, c'est assez amusant parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le domaine du paranormal et on l'utilise à peu près à toutes les sauces.
Ouais.
Un médium, là, dans le milieu de la parapsychologie, on l'utilise spécifiquement pour désigner des gens qui prétendent pouvoir communiquer avec l'au-delà. Donc, ils sont les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des défunts.
Okay.
Donc ça, ce sont des médiums. Souvent, on va utiliser, parfois les policiers vont utiliser des médiums pour essayer de retrouver des enfants. On sait pas trop s'ils communiquent avec l'enfant décédé ou s'ils communiquent ou s'ils reçoivent des effluves de l'au-delà. Dans ce cadre-là, okay, les parapsychologues vont préférer le terme sensitif plutôt que d'utiliser le terme médium qui est vraiment réservé à des gens qui affirment communiquer avec l'au-delà.
Okay.
Et on s'est posé cette question, donc des scientifiques de l'Université Durham en Angleterre se sont posé la question, est-ce que, sans se prononcer sur oui ou non, est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà? C'est très important de ne pas confondre l'acuité de l'information que ces gens-là transmettent. Mais on s'est posé la question, est-ce que ces médiums présentent un profil psychologique qui est différent de monsieur et madame tout le monde, en dehors de cette curieuse habileté qu'ils affirment avoir, qui est de communiquer avec l'au-delà? Donc, ils ont fait une étude, ils ont interrogé 65 médiums en Grande-Bretagne qui sont membres, du Spiritualist National Union. Donc, il y a une espèce d'association de médiums. Donc, c'est les 65 médiums sélectionnés appartiennent à cette congrégation.
Ouais, voilà.
Et puis, on a interrogé 143 personnes qui sont, disons, ordinaires, entre guillemets. Donc, des monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi.
Oui, oui.
Qui n'ont pas de prétention de médiumnité. Donc, on a regardé ces gens-là, on a essayé de dresser un portrait, un profil psychologique de ces gens. Et ce qui ressort de cette étude, c'est assez fascinant, c'est de voir que les gens qui prétendent être médiums, et là je dis prétend entre guillemets,
donc
ces gens-là qui disent être médiums, ce sont également des gens qui, comparativement à la population en général, ont plus de facilité à s'engager, à se plonger dans des activités mentales ou imaginaires, ou encore qui vivent de façon plus spontanée des expériences de conscience modifiée. Donc, par exemple, si on prend des gens et on les met dans une pièce et on lui demande de visualiser des images, tout ça, ces gens-là ont plus de spontanéité à réaliser ce genre de travail-là. Si on cherche, par exemple, des gens pour faire du yoga, faire de la méditation, voire même de l'hypnose, se soumettre à l'hypnose, ces gens-là deviennent de meilleurs sujets. Ils ont une espèce de facilité à pénétrer cette espèce d'univers de conscience altérée. Et c'est ce qui distingue de façon assez marquée monsieur et madame tout le monde versus ces médiums.
Okay.
On a découvert également, et ça tu vas voir, c'est particulièrement intéressant, ces gens-là, les gens qui prétendent être médiums, très souvent leurs affirmations remontent à la petite enfance. Hein. Lorsqu'ils étaient enfants, ils prétendent avoir entendu des voix, et ces voix-là, et là tu vas comprendre toute la dynamique, ces voilà, ils les ont interprétés comme étant une expérience ou positive ou négative. Si elle est perçue de manière négative, dans bien des cas, ces gens-là n'associeront pas ces voix avec l'au-delà et éventuellement, ils vont, ou bien d'eux-mêmes ou par des proches, ils seront dirigés vers des psychologues et des psychiatres et bien souvent, il y aura un diagnostic, par exemple, de maladie mentale, schizophrénie ou autre. Mais en revanche, si ces gens-là perçoivent cette expérience-là comme positive,
oui,
ils vont simplement l'insérer dans leur schéma de vie. Et s'ils croient à l'au-delà, ben ils vont incorporer, ils vont comme créer une croyance autour de la perception de ces voix-là et ils vont éventuellement prétendre pouvoir communiquer avec l'au-delà parce qu'ils entendent ces voix. Donc, tu vois, d'un côté, si l'expérience est négative...
Un problème de santé mentale.
On aura tendance à dire que ces gens-là souffrent d'un problème de santé mentale, mais si l'expérience est positive, ces gens-là vont eux-mêmes s'autoproclamer médium.
Okay.
Les chercheurs ont également remarqué que si on pose à ces gens-là la question, oui, mais est-ce que vous pensez pas que les voix que vous entendez dans votre tête, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir simplement d'un trouble psychologique, un trouble de santé mentale? Est-ce qu'on trouve également chez ces gens-là, chez ces médiums, il y a une espèce de séparation entre ce que les autres pensent d'eux. Donc, pour eux, ça n'a pas d'importance. Ils entendent ces voix, les ont placées au centre de leur existence, et que les gens les croient ou non, qu'on les considère comme des psychotiques, comme des malades ou peu importe, ils en ont absolument rien à cirer. Hein, ça fait partie de leur univers, c'est une espèce de cocon dans lequel ils se trouvent eux-mêmes, et pour eux, ils acceptent l'expérience.
Bon.
Ce qui est intéressant aussi de remarquer, les chercheurs ont fait cette distinction, ils ont souligné que, tu sais que dans le domaine de la psychologie ou la psychiatrie, il existe une espèce de grosse bible qu'on appelle le DSM.
C'est quoi ça, le DSM?
Le DSM, pour les gens qui nous écoutent, hein, les lettres d'appellation veut dire Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Hein, c'est une sorte de bible. Dans laquelle on retrouve à peu près tous les troubles du comportement, les maladies mentales, les grandes pathologies, tout est recensé dans cet ouvrage-là. C'est un peu comme un grand dictionnaire que les psychologues et les psychiatres utilisent. Et par exemple, si tu me dis tu as tel ou tel symptôme, ben je vais fouiller dans mon grand dictionnaire qu'on appelle le DSM, puis je vais trouver les symptômes, et ces symptômes-là seront généralement associés à une pathologie. Les chercheurs ont fait remarquer d'ailleurs que on le publie de manière, on fait une mise à jour du document toutes les 10, 15 ou 20 ans en fonction des nouvelles découvertes dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie. Et quand on regarde le DSM, ou actuellement, celui qui est valable, c'est le DSM-5. Celui qui est en cours, là, c'est le DSM-5. Et quand on le compare à son édition précédente, qui était le DSM-4, on constate que dans la rubrique des symptômes, on voyait que les gens qui disaient entendre des voix avec l'au-delà,
oui,
on les considérait comme étant des gens qui souffraient probablement de troubles mentaux, sinon de schizophrénie. Et dans la nouvelle version du DSM, qui a été publiée il y a quelques années maintenant, on a enlevé ça et on fait une espèce de parenthèse en disant « il faut faire attention parce qu'il y a en effet des gens qui peuvent vivre des expériences où ils entendent des voix et ces expériences-là sont faites dans des cadres spirituels, ésotérique, mystique.
Donc, il y a une ouverture.
Mais
la question que je voulais te poser, est-ce que ces gens-là qui sont médiums considèrent qu'ils ont un don? Parce que moi,
oui,
là, Christian, là, quand j'ai su que tu voulais me parler des médiums, moi, tout de suite, là, ça m'a amené à des souvenirs, à des histoires qui m'ont été racontées, des personnes qui considéraient avoir un don. Médium, oui, d'autres voyants, des dons de voyants, de voyantes, mm-hmm, des dons de ramancheurs. Moi, j'ai plein d'histoires de ramancheurs, des gens qui avaient épuisé leur recours avec la médecine scientifique, la médecine, la médecine des médecins de faculté de médecine, là, la médecine officielle. Et là, en désespoir de cause, ils se tournaient vers des gens qui avaient un don de guérison, ou un don de ramancheur. Est-ce qu'il y a-tu comme une espèce de lien commun, de fil conducteur à ces personnes qui considèrent qu'elles ont une espèce de pouvoir spécial,
ouais,
de voir... Non?
Oui, je dirais que dans notre langage, on va dire ces gens-là ont un don. Et bien souvent, lorsqu'ils vont parler en public, ils vont parler un peu de ça comme étant un don. Dans d'autres cas, ils vont dire que c'est un peu une malédiction d'entendre continuellement ces voix. Mais une chose est certaine, ils définissent cette habilité comme quelque chose de particulier. Hein? C'est une caractéristique qu'ils ont qui n'est pas le propre de monsieur et madame tout le monde. Mais j'en viens à parler de ton truc de ramancheur. Ça, c'est fort intéressant parce que ça, c'est une autre sphère de la recherche en parapsychologie. Donc, en terminant sur mes médiums, hein, on le dit bien, Bernard, les chercheurs qui ont fait cette étude-là ne se prononcent pas à savoir si oui ou non ces gens-là communiquent avec l'au-delà. C'était réellement un profil psychologique qu'on voulait déterminer, mm-hmm, qui sont ces gens. Mais quand on glisse du côté des gens qui affirment être des guérisseurs ou des ramancheurs, là, il y a des recherches très, très pointues qui ont été menées là-dessus avec des résultats qui sont particulièrement surprenants. Hein, le temps file, mais je vais simplement te raconter ça parce que c'est au cœur même du sujet. Dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, il y a un oncologue à l'Université McGill à Montréal qui s'est intéressé à cette question des guérisseurs. Et on le sait, les guérisseurs disent « j'ai de l'énergie qui sort de mes mains, on peut guérir ». Donc, ce chercheur en question, Bernard Grade, qui est un oncologue aussi, a pris 48 souris. Il a fait des prélèvements sur les 48 souris, les a placées par groupe de 16. Et un groupe de 16 était manipulé par un guérisseur, les autres étaient laissés de côté. Et on a découvert, après 2 semaines, que les souris manipulées par le guérisseur avait guéri plus vite que les autres.
Je veux qu'on en reparle.
Absolument,
comme j'ai quelqu'un qui m'écrit le don d'arrêter le sang, là. J'ai plusieurs auditeurs.
Absolument.
Bon, mais je veux qu'on en parle la semaine prochaine, jeudi. OK, Christian?
Parfait, absolument.
Excellent. Merci tout le monde. OK, ce soir, on se reparle demain.